Wickham, Jéricho.
Bonsoir, 19h21h, comme tous les dimanches, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à écouter cette émission ce soir. J'ai déjà eu plein de messages avant cette émission, et les petits messages arrivent encore. On nous écoute de partout, de Paris, du Québec, avec Nicolas Belmar, qui fait une émission là-bas, de folk, on le salue bien, même avec le décalage horaire. De Paris, on nous écoute encore de Saint-Avold, enfin de partout en France et à l'étranger. C'est la 704e émission de Foot Folk, c'est pas mal. Et ce soir, on reçoit Gégé. Bonsoir Gégé.
Bonsoir.
Alors, il nous a enchanté avec les chants de marins et d'autres par les chants de pirates et flibustiers il y a quelques mois, c'était super bien. Et ce soir, c'est le folk américain.
C'est le folk américain, tout à fait.
Alors, conquête de l'indépendance, la guerre civile, conquête de l'Ouest, ruée vers l'or, conquête de la modernité, les trains, l'industrialisation, conquête des droits civiques par la population noire, etc., etc., et plus y affinité.
Et plus y affinité, tout à fait.
On se retrouve dans quelques minutes, Gégé. Bienvenue donc dans cette 704e émission de Foot Folk. Avant de retrouver Gégé avec son émission spéciale folk américain, on démarre comme à l'accoutumée avec Trianne, sortie de l'album Rumadou. L'album est sorti en 2011 et je vous propose de retrouver nos amis Trianne. Il est 19h04 sur les ondes de Jéricho. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour cette émission Foot Folk.
Son amor, 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 am Un grand square dance est aussitôt organisé dans le saloon de Desita.
En avant, voilà le quadrille, un par un est bien détaché. Vers la droite, les garçons, les filles, attention, là on va changer. Vers la gauche, suivez la musique, tous en rond et le pied léger. Écoutez ce que je vous explique, attention, on va s'arrêter. Maintenant, c'est la promenade, vous défilez très amoureux. Bien tendu, comme à la parade, allons les couplets de perdu. Cavalier, la cavalière, en mesure, souriez-vous. Le cavalier, la cavalière, en se liant
incliné. Cham, cham, ouais, t'es presque prêt à danser, hein, GG. Hein.
Absolument, bon, on dansait d'ailleurs.
Hein. Bah oui. Ah, oui. Alors le folk américain, alors c'est vrai que tu nous as déjà enchanté avec les chants de marins, les chants de pirates de flibustiers. Ce soir, on se retrouve. D'ailleurs, ça s'est décidé quand il y a eu la 700e émission.
Tout à fait.
Et on s'est dit, bah tiens, quand est-ce qu'on se revoit pour faire une émission spéciale? Et puis tu as proposé le folk américain. Je dis, très bonne idée. Très très bonne idée, GG. Alors la douce...
Bah, ça c'est nous, c'est en fait nos auditeurs qui nous le diront à la fin de l'émission. Hein.
Oui.
C'est là qu'on verra, bien sûr.
Bien sûr.
Alors pourquoi le folk américain? C'est parce que finalement c'est un peu la même chose que ce qu'on avait vu les fois précédentes. Hein. On avait parlé des chants de marins qui sont en fait la conquête des mers, la conquête de nouveaux pays, la conquête de nouveaux continents. On a parlé des flibustiers qui étaient en fait les gens qui étaient là pour ramasser la monnaie quand les autres avaient trouvé du fric, notamment les Espagnols. Hein. On a parler de ça. Et là, il m'a semblé que c'était peut-être intéressant de continuer la discussion avec la conquête des États-Unis, parce que c'est un pays jeune, effectivement, qui a connu pas mal de mouvements, d'événements. Et dans le fond, c'est un peu aussi la même chose, c'est la conquête. Quoi.
Quand on parle de, comme tu le disais à l'instant, quand on parle de folk américain, bon, l'Amérique, c'est pas un pays qui est très très vieux, donc le folk américain, c'est pas très très vieux non plus.
Alors, c'est pas à la fois pas très vieux dans la forme qu'il a pris, et en même temps, c'est souvent très vieux.
Mm-hmm.
Parce que c'est essentiellement un folk qui vient des immigrants. Les immigrants, ils ont amené leur folklore, que ce soit les Irlandais, les Allemands, les Suédois, mais aussi les Noirs qui venaient d'Afrique, hein, qui ont aussi amené leur rythme et leur façon de faire. Donc c'est en fait un mélange de rythmes à la fois très, très anciens et en même temps une recomposition, une remasterisation, comme on dirait aujourd'hui.
Mm-hmm.
De l'ensemble de ces musiques. Voilà.
On va démarrer par quoi? Par la route de l'indépendance, c'est
par,
ça
par, ou on va essayer de démarrer par le début, oui, si c'est possible. Hein.
Oui,
l'indépendance, c'est en fait l'indépendance des États-Unis. C'est les États-Unis en 1770 à peu près, c'était une colonie britannique. Il y avait 13, on appelait ça les provinces à l'époque, mais c'est ce qui correspond à peu près 13 États sur la côte est des États-Unis. C'est un tout petit morceau finalement du continent. Et les gens qui étaient là commençaient à en avoir un peu assez de payer des taxes et de se faire ponctionner et plus et encore. Et donc ils ont commencé à se révolter contre le pouvoir anglais. Parce que c'est les Anglais qui possédaient cette colonie, qui était considérée donc comme une colonie à l'époque. Sans vouloir rentrer dans trop de détails, ce qui s'est passé, c'est que ils se sont fédérés. Et puis il y a un événement qui est resté célèbre, qu'on appelle le Boston Tea Party. C'était en 1773, il y a un bateau anglais qui arrive avec une cargaison de thé. Le thé était lourdement taxé, donc il y a des gens déguisés, soi-disant en indien, d'après ce qu'on a, la légende raconte, qui sont montés à bord et qui ont balancé la cargaison de thé dans l'eau du port de Boston.
Carrément.
C'est ce qu'on appelait le Boston Tea Party. Et en fait, le Tea Party, on entend encore parler, hein, puisqu'on fera toujours des allers-retours par rapport à l'histoire et puis ce qui se passe aujourd'hui. Le Tea Party, c'est aujourd'hui un parti radical aux États-Unis. États-Unis, qui veut quoi ? Ben, qui veut supprimer l'État fédéral et qui veut déréguler, etc. Voilà, donc ça c'est la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, c'est aussi, pour nous en tout cas, c'est Lafayette. Hein. On est assez fiers d'avoir vu l'Hermione quitter les rivages de France, d'abord d'avoir été reconstruite et puis ensuite de quitter les rivages de France.
C'est chouette, ça.
C'était vraiment un très beau bateau. Ce qu'on sait un peu moins, et je crois que c'est dommage pour notre ville, c'est que Lafayette, en fait, était un militaire et il est venu compléter sa formation militaire à Metz.
Ah oui.
En 1775, pardon. Lors d'un dîner, c'est là que il s'est dit que, en écoutant ce que racontait le consul d'Angleterre sur les insurgés de l'époque, donc les gens qui menaient déjà la révolution là-bas, et il s'est dit faut les aider, ces gens-là. Et donc il est parti et il est revenu donc quelques années plus tard. C'est là qu'il a convaincu le roi, qu'ils ont mis en place l'Hermione. Et toujours pour la petite histoire, dans les 1780, Lafayette est revenu ici et il commandait une des trois armées de l'Est de la France. Alors c'est juste un petit peu dommage que Metz ne rende pas plus hommage à cet illustre ancêtre quand même.
Ouais, c'est clair.
C'est un petit peu dommage.
On aurait pu trouver un endroit où mettre un bateau pour le clin d'œil.
Pourquoi pas, oui. Bien sûr. Hein, bien sûr. Ou participer, par exemple.
Oui, voilà.
Participer à l'Hermione, par exemple. C'est vraiment un petit peu dommage. Alors il y a un morceau qui est tout à fait emblématique de cette époque. Ça s'appelle Yankee Doodle. On va écouter la version instrumentale. C'est en fait une chanson que les officiers anglais, britanniques, avaient écrite et avait inventé pour se moquer des insurgés, justement. Parce que, contrairement aux armées anglaises, c'était des gars qui étaient habillés de briquet de broc, qui avaient ce qu'ils avaient comme arme, etc. Et donc, la chanson avait été faite pour se foutre de leur gueule, quoi, pour parler poliment. Et en fait, les insurgés américains ont pris ça comme hymne, et ça a servi de ralliement, finalement, et de chanson emblématique. Donc, ça s'appelle Yankee Doodle.
La guerre de sécession a cessé, ça c'est sûr. Ah, c'est pas évident à dire. Hein.
Absolument, oui. Ça c'était un vieux piège que je t'ai tendu, je te prie.
Ben oui.
Excusez. Absolument. On avance dans l'histoire. Alors Yankee Doodle, on l'a entendu, c'est très martial, très militaire, etc.
Oui.
Et c'est un petit peu de l'histoire des États-Unis quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de conquêtes, bien sûr, mais de conquêtes violentes, des conflits. On en parlera sur la conquête de l'Ouest, entre autres. Ces 13 États dont on parlait deviennent indépendants. Le territoire s'accroît, notamment Napoléon qui vend la Louisiane en 1803, qui vend la Louisiane aux États-Unis, ça double la capacité. Ensuite, les Américains se battent avec les Mexicains, ils récupèrent le Texas, ils récupèrent un bout de la Californie. Donc tout ça continue à se constituer. Et puis, dans les années 1800, 1861-65, c'est la guerre de sécession. Alors, nous, on appelle ça la guerre de sécession, eux, ils appellent ça la guerre civile.
Ah.
Et la guerre civile, on la voit, nous, souvent, comme les braves Yankees nordistes qui allaient casser la gueule aux salauds d'esclavagistes du Sud.
Ah bah oui.
C'est pas tout à fait comme ça que l'histoire se passait. C'est-à-dire que, en fait, ça a été très rapidement la confrontation entre deux mondes complètement différents. D'un côté, il y avait le Sud, qui était essentiellement rural, agricole, qui se basait sur une exploitation très bon marché avec les esclaves, justement. Hein. Donc leur économie était essentiellement fondée là-dessus. Et donc ils vendaient leurs produits justement parce qu'ils avaient des mains d'œuvre qui leur coûtaient pratiquement rien. Hein. Alors que le Nord, plus urbanisé, lui était en train d'essayer de s'industrialiser et il n'était pas encore assez puissant pour se battre contre l'Europe qui était quand même beaucoup plus importante et beaucoup plus forte à l'époque. Et donc c'est essentiellement des raisons aussi économiques qui ont fait que les gens ont commencé à se battre. Alors c'était une guerre qui a été longue, qui a créé des fractures importantes. Qui dure quelquefois toujours, hein, parce que quand on voit dans le sud des États-Unis, ils ont toujours le drapeau confédéré. Le racisme tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un peu le résultat aussi de cette... On en reparlera quand on parlera de la conquête des droits civiques par les Noirs. C'est quelque chose qui a vraiment laissé des traces, surtout que les nordistes n'ont pas été avec le dos de la cuillère lorsqu'ils ont gagné la guerre. Ils sont arrivés et puis bon, ils ont mis le sud sous coupe réglée, quoi. Donc ah oui, ouais. Ils sont pas vraiment embêtés. Et là, on va écouter ce qui est finalement l'hymne sudiste. C'est une version qui date des années 1950, hein, qui est l'hymne sudiste. Je pense que tout le monde l'a entendu dans les westerns ou dans les films d'Hollywood. Hein. C'est la numéro 2, c'est Dixieland.
Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever past?
Voilà, c'est un test que tout le monde connaît. parce que je garde mon casque sur les oreilles, je dis tout le monde connaît. Bon, celle-là, je la connais, mais pas sous le nom que tu as.
C'était prévu pour la fin, ça. Ouais, oui, absolument.
Alors, Dixieland.
Dixieland, en fait, c'est le surnom du sud des États-Unis. Alors, pourquoi Dixie? Il y a plusieurs explications ou des légendes qui se promènent. Une, notamment, c'est. On parlait de la Louisiane tout à l'heure. Une, notamment, c'est que la province ou l'État de Louisiane avait émis des billets de 10 dollars. Et comme la Louisiane était assez fortement marquée encore par le français, c'était marqué 10 en français. Et nous, on prononce 10 alors que les Américains ou les Anglais prononcent Dix, D-I-X. Hein, Dix,
ah, ouais, okay, ouais.
Dix, Dixie. Donc c'est de là que vient le terme Dixie. Je pense qu'on va
pouvoir écouter ce morceau.
Sans
aucun problème.
I wish I was in Dixie, hooray, hooray, in Dixie.
tout. C'est connu, ça. Oui, Dixitland, c'est... très connu.
C'est effectivement connu, oui. C'est un petit peu l'hymne des confédérés, quoi, hein, l'hymne donc des sudistes. Et on peut entendre là, dans cette version qui doit dater de 1948, qui a été remasterisée, vraiment le son du banjo tel qu'on l'entend.
Il est clair, hein, il est beau. Hein.
Et puis, ouais, il est très très particulier, quoi, hein, l'accompagnement au banjo. Et donc ça, c'est un des apports, notamment des Noirs, hein, puisque bon, on parle du Sud, et le Sud, il y avait donc, comme on le disait, pas mal d'esclaves qui avaient ramené leur propre culture, mais qui se sont aussi progressivement approprié, hein, les choses telles qu'elles se passaient. Alors bon, c'est une histoire compliquée, difficile, dont tout le monde a participé, hein. Je pense qu'un certain nombre de ports français ont vraiment fait leur fortune. Ou un certain nombre de familles françaises ont fait leur fortune.
P.O.R.T.
Sur le bois d'ébène, comme on l'appelait, c'est-à-dire les esclaves. Quoi. Mm-hmm. Donc c'est une histoire qui est lourde, longue, compliquée, et puis qui je pense, n'a pas tout à fait terminé de faire parler d'elle. Et les Noirs avaient donc plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on disait dans le Sud que de toute façon, c'était des feignants, et que si on les mettait en esclavage, c'est qu'on était déjà bien gentils, parce qu'on leur donnait à manger. Alors que bon, bah, autrement, si on les laissait tout seuls, ils allaient ne rien faire du tout et dormir, etc. Mmh. Y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord, effectivement, notamment les gens du Nord. Hein, on a parlé un peu de ça. Et on s'aperçoit aujourd'hui, les historiens disent que finalement beaucoup des chansons qu'on connaît aujourd'hui, notamment les gospels, ces fameuses chansons dites religieuses, hein, bon, ont en fait un double voire un triple sens. C'est-à-dire que il y avait le sens littéral, hein, mm-hmm. qui était en fait le sens religieux, et puis derrière c'était le message, par exemple quand on dit dans une chanson Moïse va vous délivrer, c'est en fait quelqu'un va venir pour nous délivrer, nous les Noirs, et nous affranchir. Donc, il y a aussi est-ce que c'est une légende urbaine, est-ce que c'est une réalité, mais il y a aussi des chansons qui apparemment donnent des recettes très précises pour les esclaves qui veulent s'échapper. Et notamment, il y en a une qui fait référence à la Grande Ourse, mm-hmm. L'étoile, enfin mm-hmm. la constellation de la Grande Ourse, mm-hmm. et puis l'étoile polaire. Et la chanson est entièrement basée sur « Il suffit de repérer la Grande Ourse, suivre l'étoile polaire en hiver, et comme ça on peut passer l'Ohio, et puis monter vers le nord et devenir libre. » Parce que dès qu'on franchissait la frontière des États sudistes, en tant que noir, on était libre. Autant qu'on était riche, hein, mais en tout cas, on était libre.
C'était un peu un GPS, mais...
C'était une sorte, oui, c'était un peu ça, ouais. C'était une sorte de guide. Alors, personne n'a pu vérifier, effectivement, si c'était vraiment le cas, mais en tout cas, il y a une ou deux chansons qui sont très très claires là-dessus. C'est des indications très précises sur comment il faut faire pour... En tout cas, on peut les interpréter comme ça, quoi. Mmh, mmh. C'est comme ça qu'il faut faire pour si on veut s'échapper.
Ah,
c'était vraiment le gros problème et le gros danger, parce que bon, un esclave qui s'échappait, il était pendu, ensuite brûlé vif. Vraiment, enfin, bon, il y a toute une littérature assez horrible sur le sujet, quoi. On en faisait des exemples sinistres pour que les autres, justement, ne s'en aillent pas. Mmh. Donc, ils ont été libérés, ces Noirs, entre guillemets, naturellement. C'est pas pour autant qu'ils ont trouvé du boulot. Parce que l'économie était basée quand même sur de la main-d'œuvre à très bon marché. Et donc, ils ont continué pendant longtemps à essayer de survivre. Et la chanson suivante, qui est aussi une chanson qui est venue chez nous au travers de multiples influences, y compris pop-rock, etc. C'est une chanson d'un gars qui s'appelle Led Belly, qui est né sur une plantation. Lui-même était né en 1888, donc il était libre, mais sa grand-mère était esclave. Et il a en fait réadapté un certain nombre de chansons que lui chantait sa grand-mère quand elle était esclave, justement. Ce morceau s'appelle Cotton Fields. Ça vous dira sûrement quelque chose quand vous allez l'entendre. Hein. Et ça dit tout simplement, c'est pas parce qu'on est libre qu'on gagne de l'argent, c'est dur. Et, mm-hmm. quand on traverse la Louisiane ou l'Alabama et puis qu'on va à l'état suivant, ils nous foutent dehors, ils nous demandent ce qu'on vient faire ici, quoi. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc c'est de Led Belly, qui est un chanteur célèbre pour notamment son jeu de guitare 12 cordes.
When I was a little baby, my mother rocked me in the cradle. And I'm old confused at home. When I was a little baby, my mother would rock me in the
sudden, you couldn't pick very much cotton in the more cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and the more cotton field at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money in the more cotton field at home. It may sound a little funny, but you didn't make very much money in the more cotton field at home. Oh, when them cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton in the more cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and the more cotton field at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for, and the more cotton field at home. I was over in Arkansas, people asked me what you come here for, and the more cotton field at home. Oh, when the cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton, and the more cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and the more cotton field at home. Oh, when the cotton bowls get rotten, you can't pick very much cotton, and the more cotton field at home. It was down in Louisiana, just a mile from Texarkana, and the more cotton field at home.
I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting.
Dum de dum dum.
Lonesome cowboy, cowboy, to a long, long way to roam, to roam.
Avant de partir du côté de l'Ouest à la conquête de l'Ouest, quand on vient d'entendre Lucky Luke. Juste une petite question d'un internaute qui parlait justement de confédérés. Et puis, on parlait de récolte de coton. On avait peut-être oublié de le préciser.
C'est vrai.
Il disait, il y avait des Français côté confédérés. C'est une question. Il y avait des Français côté confédérés. Certaines mélodies en Bretagne ont des consonances avec des morceaux confédérés.
Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que, enfin, ou plutôt, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que autant lors de la guerre d'indépendance, il y a eu des Français, hein, mm-hmm. Qui se sont engagés. Il y a quand même eu lors de la guerre d'indépendance 10 000 Français qui sont morts, notamment sur mer, 75% sur mer. Donc c'est effectivement un engagement parce que la France était engagée contre l'Angleterre, c'est-à-dire que on se battait par état interposé. En ce qui concerne la guerre civile, donc la guerre de sécession, qui a effectivement cessé, ça c'est sûr, comme tu le disais, en ce qui concerne la guerre civile, c'est un peu moins clair parce que c'était vraiment une guerre interne. Mais il y avait effectivement, en Louisiane notamment, hein, la Louisiane faisant partie des États confédérés, il y avait pas mal d'Acadiens qui avaient été ramenés là-bas avec le grand dérangement, on en parlera peut-être.
On connaît.
Et donc qui faisait partie de cette mouvance et de cette bataille, parce que c'était quand même quelque chose de relativement compliqué, quoi, pour tout le monde. Hein. Chacun essayait de défendre son modèle économique, sa façon de vivre, quoi, son modèle de vie. Et il y a probablement des marins, des gens qui sont venus donner un coup de main, prêter main forte, qui se retrouvaient là. Faut pas oublier non plus, on parlait d'une précédente émission des champs de marins. Mm-hmm. Les marins, par définition, ça se promène, quoi. Hein. Donc, effectivement, ils arrivent sur un endroit, ils arrivent dans un port, ils y restent et ils s'engagent quelque part. Donc, alors, il est probable qu'effectivement des gens qui venaient de marins de Bretagne aient été réadaptés. Hein, c'est tout ce que les Américains appellent le melting pot, c'est-à-dire qu'on prend tout ça, on le fond ensemble pour faire quelque chose d'américain, mais, mm-hmm. mais en fait ça vient de différents endroits. Quoi. Donc il est fort probable que beaucoup de chants soient, ou beaucoup de morceaux, hein, viennent, comme ils sont venus d'Irlande, comme ils sont venus d'Écosse, comme ils sont venus de tant d'endroits différents.
D'accord. Merci à Eric pour cette question. Oui, on parlait de Lucky Luke, d'ailleurs. Bon, Lucky Luke, parce qu'on se pose toujours la question, mais est-ce qu'il a existé ou pas?
Alors, en tant que tel, non. Alors, c'est en plus, c'est très intéressant parce que nous qui sommes en France, on n'a rien à voir quoi, avec cette histoire. Et pourtant, tout le monde connaît Lucky
Luke. Bien sûr.
Hein, et ça fait rêver tout le monde. Et je pense que tout le monde a vu dans sa... Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, ont vu dans leur enfance ou même encore maintenant des westerns, etc. Donc, il y a tout ce mythe de la conquête de l'Ouest hein, qui est extrêmement importante. Alors, surtout importante pour les Américains. Hein, effectivement, on parlait de la country tout à l'heure, on y reviendra hein,
ah
si
oui.
Tu veux bien.
Bon,
ben
bien sûr.
Mais donc c'est effectivement. Alors il faut voir que cette conquête de l'Ouest, c'est pas successif. Hein. Bon, les États-Unis deviennent les États-Unis, donc deviennent indépendants. Mm-hmm. Ensuite, il y a la guerre civile, la guerre de sécession. Mais dans le même temps, y a plein d'immigrants qui arrivent, et donc la frontière est là Et dans l'état d'esprit américain, la frontière, c'est pas comme chez nous. C'est-à-dire que pour un Européen, on va dire, une frontière, c'est l'endroit où on s'arrête.
Normalement.
C'est l'endroit où, en tout cas, on parle beaucoup de Schengen en ce moment. Donc, c'est vraiment des endroits où, qui sont des barrières. Hein. Mm-hmm. Dans l'esprit américain, la frontière, c'est l'endroit où tout commence. C'est-à-dire que la civilisation, elle était ce qu'elle était, ou elle est ce qu'elle est. Si elle vous plaît pas, on passe au-delà, mm-hmm. et puis tout est possible. Hein, donc dans l'esprit des Américains, la frontière, c'est là où les choses commencent, par opposition à l'Europe.
Ouais, okay.
Et donc c'est vrai que ce mythe de la frontière, il a alimenté... On pense qu'il y a eu 700, 800, peut-être 900 000 personnes qui sont parties comme ça à l'aventure. Quoi.
Quand même.
Alors, on voit bien ces chariots, hein, qui sont la réalité d'ailleurs. Hein. C'était des chariots assez lourds, en bois, avec de la toile tendue sur des arceaux au-dessus, mm-hmm. Généralement des bœufs, hein, parce que les chevaux, c'était quand même beaucoup trop cher.
Ah, oui.
Et tout ça, ça a avancé à 15-20 km/h. Hein. Mm-hmm. Et on parcourait 2000, 3000, jusqu'à 3200 km. Donc, pour essayer de trouver quoi ? Essayer de trouver de la terre. Parce que le fond du problème pour les immigrants, c'était pas de faire de la philosophie, c'était d'avoir un coin où ils puissent planter leur maison, labourer le sol. Mm-hmm. Et alors effectivement, c'est une conquête qui a été extrêmement brutale. Et ça, encore une fois, il a fallu attendre très tardivement pour la reconnaître. Hein, mais très brutal, pourquoi ? Parce qu'il y avait quelques Indiens ou quelques tribus indiennes qui traînaient dans les parages.
Oui. C'est pour ça que le soir, ils se mettaient en rond.
Alors ça fait partie de la légende, justement.
C'est de la légende.
Tout ça, c'est complètement fantasmé. Et Lucky Luke, c'est la même chose, c'est complètement fantasmé. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une conquête très difficile. Il y a beaucoup de chansons qui en fait parlent de quoi ? Qui parlent du fait que c'est long. Il y a un bœuf qui est mort et que il n'y a plus que trois qui tirent le chariot et donc on va moins vite. Il y a une roue qui s'est cassée. Il y a des moustiques. Il y a un machin qui est mort parce que il en pouvait plus. On crève de froid, on crève de faim, etc., etc. Donc il y a quand même dans la réalité des choses beaucoup plus de difficultés que de réalité. Et par contre, aussi bien pour le gouvernement américain que pour tout le monde, l'idée c'était aller vers l'Ouest, il faut absolument y aller. Donc il y avait une publicité qui s'est faite, hein, très très forte. Alors on pourra parler longuement par exemple du Buffalo Bill, ça aussi c'est quelque chose qui est Buffalo Bill, Bill Cody, qui était un scout, c'est-à-dire un éclaireur de l'armée. C'est rendu célèbre pour deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il a commencé par tirer des bisons pour récupérer des buffaloes, hein, mm-hmm. d'où son surnom, Buffalo Bill. Hein. Mm-hmm. Donc tirer des bisons pour nourrir l'armée. Et puis très rapidement, l'armée s'est rendu compte que les Indiens avaient besoin de ces animaux pour survivre. Et donc, à la fin de la conquête de l'Ouest, l'armée a fait des campagnes d'éradication des bisons. C'est-à-dire qu'ils tuaient des bisons, Buffalo Bill a participé à ça, tuaient des bisons, laissaient sur place, laissaient pourrir sur place. Les Indiens ne touchaient pas parce que c'était des animaux morts, pour les faire crever de faim et puis les pousser dans les réserves. Il y a des photos absolument hallucinantes où on voit des types à 10 mètres de haut sur des crânes de bisons. Et les crânes de bisons sont, les ossements de bisons sont utilisés pour faire du feu ou pour faire de l'engrais. Donc l'objectif, c'était on récupère les peaux et puis à la fin, on les laissait même sur le terrain comme ça. Quoi. Donc tout ça démontre une conquête de l'Ouest très très brutale, Ce qui explique aussi comment l'Amérique est devenue aujourd'hui. Quand on dit que les Américains ont une civilisation très brutale, mais c'est, tout ça, ça les a forgés. Quoi. C'est ce qui a fait leur réalité. Hein. Donc on a largement fantasmé, finalement, le truc avec le bon cow-boy, le vilain indien. Alors, il faut savoir que pour un indien, arriver avec une charrue et ouvrir la terre, c'était comme si, pour nous, on ouvrait le ventre de sa mère avec un couteau. Hein, parce que c'était pour eux la terre nourricière.
La
terre nourricière sur la surface. On ne la cultivait pas, quoi, leur culture. Hein. Donc quand ils ont vu arriver ces mecs avec leur charrue, bon, ils y devenaient un petit peu...
Un petit peu jaune,
un petit peu vert, un petit peu bleu, un petit... etc. Quoi. Donc voilà, c'est la conquête de l'Ouest. On pourra en parler. Le morceau qui va suivre s'appelle « Oh Susanna ». Alors il est emblématique parce que finalement, il raconte bien le double langage. C'est-à-dire que l'histoire, c'est quoi ? C'est « Suzanne, je viens te voir avec mon banjo sur les genoux. Il faisait tellement chaud que je crevais de froid. Il y avait tellement d'eau que ben, je crevais de soif, etc. etc. » Donc c'est sans arrêt cette espèce de jeu en disant « On nous a promis une terre extraordinaire et finalement, ben, tout ce qu'on a trouvé, c'est le désert. » Mm-hmm. Au Susanna.
It rained all night the day we left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with a banjo on my knee.
Ah, on parle de la conquête de l'Ouest, on parle des Indiens qui étaient bien présents, parce que cette conquête de l'Ouest...
Ah bah oui, bien sûr.
Rassure-moi tout de suite, Gégé, tu m'as dit, quand on a préparé cette chronique, que tu venais entièrement gratuitement. Donc, à la fin de l'émission, tu ne me demanderas quand même pas des Sioux.
Non. Par contre, je t'ai demandé à quelle heure ça commence quand je suis arrivé.
Oui, c'est vrai.
À quelle heure ça commence, s'il vous plaît.
Oui, voilà.
Bien sûr. C'est vrai. Alors, c'est sûr que les Indiens, ils sont un peu, j'allais dire, passés à la trappe. C'est quand même une culture qui n'avait pas la force qu'avait la culture occidentale, c'est-à-dire l'écrit, notamment, hein, et une structure hiérarchique très 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 forte. Donc, chaque tribu s'est battue comme elle l'a pu. Et puis, de reniement en reniement, hein, il y a cinq grandes tribus qui étaient considérées comme les tribus amicales. Hein. Qui avaient donc signé des accords, et puis progressivement, bon, on les a repoussés de manière assez impitoyable vers des réserves, etc., parce que ce qui était intéressant, c'était le sous-sol, c'était ce qu'on voulait faire d'eux. Et donc, on a beaucoup de mal, à savoir quelles étaient leur civilisation réelle, parce qu'ils ont justement, ils n'ont jamais laissé d'écrit, ils n'ont jamais fait d'éléments qui nous permettent de le voir. Il faut attendre aux États-Unis les années 1970 pour qu'on prenne en compte le phénomène indien avec un film qui est resté célèbre, c'est Little Big Man, où justement on voit cette fameuse conquête de l'Ouest, mais vue du côté d'un indien. Et puis aussi Soldat Bleu. Enfin bon, il y a eu un certain nombre de films comme ça qui ont. Ouais,
John Wayne qui a collaboré largement pour tout ce qui est Conquête de l'Ouest, parce qu'il y a quand même pas mal de films avec John Wayne.
Tout à fait. Mais l'image qui reste quand même, c'est très largement celle du mal américain, quoi, très très fort, qui avec ses deux colts, qui s'en va sur son cheval, Lucky Luke, hein, le cowboy solitaire. Bon, il s'en va et puis il va conquérir des terres vierges et inconnues et surtout il y avait quand même une chose d'extraordinaire et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui ça pourrait nous faire réfléchir, c'est qu'à l'époque ce que pensaient les colons, donc ceux qui arrivaient avec leurs chariots, leurs bœufs, etc., c'est qu'ils étaient supérieurs et qu'ils avaient le droit parce qu'ils étaient supérieurs de prendre la terre des autres et d'en faire ce qu'ils en voulaient eux au nom de Dieu.
Ah oui,
ça nous rappelle des choses quand même.
Hein. Ça n'a pas plu à tout le monde.
Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont eu des soucis. Quoi, hein. Un certain nombre de gens qui ont eu des soucis.
Alors, les chants de cow-boy ?
Oui, chants de cow-boy. Donc, alors, encore une fois, la vie de cow-boy a été largement romancée. Hein,
mais David Crockett a existé, lui, par contre.
David Crockett a existé. Il est mort à Fort Alamo.
Oh là, avec John Wayne.
John Wayne a survécu. On ne sait pas pourquoi, mais John Wayne a survécu. Par contre, David Crockett est mort avec un gars qui s'appelait Jim Bowie, qui n'a rien à voir avec David Bowie, qui est mort récemment, lui, mais qui a inventé un couteau dont la lame fait 20 cm.
Ah, d'accord.
Qu'on appelle un Bowie Knife, qui était le prototype du couteau de trappeur. On en parlera tout à l'heure si tu veux, mais ils sont morts dans la guerre des Américains contre le Mexique en 1853-54, quelque chose comme ça. Donc pour revenir au cow-boy, la vie de cow-boy, c'était quand même pas extraordinaire, c'est-à-dire que la réalité des choses, c'est qu'ils récupéraient du troupeau. Et puis, qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Ben, ils les gardaient le temps de les engraisser, et ensuite on les emmenait. Quelquefois sur des trajets très longs, notamment la chanson qui va suivre là parle de la Chisholm Trail, la piste de Chisholm. Chisholm étant un gars qui a trouvé ou découvert cette piste hein, sur 2000 km, dont l'objectif était de ramener ses troupeaux de l'ouest vers l'est pour qu'on puisse les mettre dans des wagons et puis ensuite les vendre.
Hein. Ah, carrément.
Donc l'idée, c'était d'emmener ses troupeaux sur 1500-2000 km. En perdre le moins possible, éviter qu'il s'affame ou qu'il perde du poids, parce que bon, finalement, on les vendait au poids qu'ils avaient à l'arrivée et pas au départ, hein, alors qu'ils avaient traversé des endroits désertiques assez difficiles. Donc c'était un métier solitaire, très difficile, et puis en plus, plein de dangers, parce qu'évidemment, t'as 5, 10 cow-boys, 20 personnes quoi, hein, qui sont là pour traîner un troupeau de 2000, 2500 bêtes. Bah, c'est facile pour des voleurs de venir récupérer le troupeau, de tuer les mecs. Leurs os blanchiront sur la plaine, et puis on n'en parlera plus. Et puis ensuite, aller les vendre à leur propre compte. Quoi. Donc c'était un métier à la fois dangereux, solitaire, et dans le fond un petit peu triste. Quoi. Et on retrouve chez Lucky Luke un peu ce côté un peu triste et mélancolique quoi, que du cow-boy. Donc on va écouter une chanson originale de cow-boy qui s'appelle Chisholm Trail, la piste Chisholm.
Jéricho, osez la différence.
Foot Folk sur Jéricho, tous les dimanches de 19h à 21h, retrouvez Yves et toute son équipe pour 2 heures de musique traditionnelle et celtique. Foot Folk, c'est aussi des interviews, des groupes en direct, des cadeaux et de la bonne humeur. Foot Folk, tous les dimanches de 19h à 21h. Kenabo.
On va reprendre cette chanson et elle va sembler à beaucoup de gens relativement lente hein, parce que c'est encore une fois un enregistrement qui doit dater des années 40-45 où on était encore assez imprégné de la manière dont ça se passait dans la réalité et faut simplement imaginer que ces gens-là poussaient du bétail qui avançait au pas d'un homme et encore quoi 3-4 km à l'heure hein. Donc ça mettait cette fameuse piste, on mettait deux mois et demi quand même à la parcourir.
C'est long.
D'où effectivement le ton peut être un petit peu lent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui de ce genre de musique. «
Well, come along, boys, listen to my tale. Tell you about my troubles on the old Chisholm Trail.
Come a tie, yippee-yippee-yay.
I started up the trail October 23rd. Started up the trail with the chill you heard.
Come a tie, yippee-yippee-yay.
Got a $10 horse, $40 saddle, going down to punch them Texas cattle.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
Woke up one morning on the old Chisholm Trail, rope in my hand and a cow by the tail.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
I'm up in the morning for daylight, for I sleep the moon is shining bright.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
Old Ben Boldy was a fine old man, you know there'd be whiskey wherever he'd land.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay. Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
It's cloudy in the west, looking like rain. My long coat slickers in the wagon again.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
Feet in the stirrups and seat on the saddle, hung and rattled with them long-horned cattle.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
The wind commenced to blow and the rain began to fall. Looked like we was gonna lose them all.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
Well, I jumped in the saddle, grabbed hold of the horn. The best blamed cowboy ever was born.
Come a tie-ya, yippee-yippee-yay. Come a tie-ya, yippee-yippee-yay.
City at the late hour of the night, who should I meet but a fair young maiden washing her clothes in the broad moonlight? Madam, mama, darling, a tyro with the row. Madam, mama, darling, a tyro.
Les chants des cowboys. GG.
Oui, les chants des cowboys. Donc effectivement, c'était, on est loin de ce qu'Hollywood nous a vendu derrière, quoi. Ce cowboy, le mal dominant qui se promène. Et d'ailleurs, bon, le country, on en parlait un peu avant l'émission, c'est un petit peu la reproduction de ça, quoi. C'est un peu la reproduction de manière, je veux dire, fantasmée de cet ouest mythique. Avec des cowboys de cinéma et puis des indiennes d'Hollywood, donc c'est un peu ça quand même, quoi. Et la musique country qui est un dérivé de, et encore une fois un condensé de toutes les musiques qui ont été prises à l'époque, c'est une musique qui est, alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est une musique qui est un petit peu une musique commerciale, quoi, qui a été finalement mise en boîte et puis utilisée. Ce qui n'empêche pas que ceux qui ont envie de danser sur ces musiques sont,
bien sûr, ils ont le droit.
Extrêmement,
hein.
Extrêmement.
Oh, sympathique. Ils nous donnent les dates, les
extrêmement
lieux.
Extrêmement sympathique, absolument.
Puis on évitera d'y aller.
Alors, puisqu'on en est à être hors la loi, on va aller jusqu'au bout, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, on va parler un petit peu d'une autre figure du Grand Ouest ou de la conquête de l'Ouest, du Far West, hein, de l'Ouest lointain.
Billy the Kid.
C'est, par exemple, oui, c'est Billy the Kid, c'est John Wesley Harding, c'est Jesse James, c'est tout ça. C'est tous les bandits, parce qu'effectivement, tous ces pays qui étaient conquis au fur et à mesure où les choses avançaient, on mettait une ville, et puis les appétits s'aiguisant, il y avait des hors-la-loi, des gens qui fuyaient la loi, hein, qui passaient la frontière, comme on en parlait tout à l'heure, pour justement échapper à la loi des États dissivilisés à l'époque. Et puis ceux qui pensaient que la rapine était facile et que les fermiers qui étaient là, qui venaient de différents pays d'Europe, étaient des proies extrêmement faciles et qu'il suffisait d'aller les récupérer l'argent, etc. Donc y a aussi toute une mythologie qui s'est créée autour de ces hors-la-loi, dont on a fait beaucoup, dans beaucoup de cas, des Robins des Bois, c'est-à-dire des gens qui volaient aux riches pour donner aux pauvres. C'est le cas de Jesse James, il y a des chansons là-dessus, de John Wesley Harding aussi, ou alors des jeunes desperados, comme on disait, parce que bon, ça c'est un mot espagnol, mais il y en avait beaucoup dans le sud des États-Unis de l'époque, qui était alors corps défendant, obligé de se défendre, et dont la chanson qui va suivre, qui est justement à la gloire de Billy the Kid, qui est resté un des plus célèbres, en tout cas en Europe.
On l'aime bien.
Oui, alors c'était pas un mec très sympa, quoi. Il est mort à 21 ans. Il est mort comme beaucoup d'ailleurs de ces cow-boys, contrairement à ce qu'on croit. On les voit, encore une fois, dans les westerns, face à face, prêt à dégainer, etc. Les études sérieuses qui ont été faites dans les cimetières, ces gens-là ont été enterrés après leur mort, montrent que, on va dire la majorité en tout cas, ont eu une ou plusieurs balles dans le dos, quoi. Parce que l'objectif, c'était quand même de tuer les gens. C'était pas tellement de se montrer vaillant ou quoi que ce soit. Et c'est beaucoup moins romantique.
Tout de suite,
Mais c'est beaucoup plus sûr. Ça, c'est évident.
C'est efficace. Hein.
C'est beaucoup plus efficace. Donc, encore une fois, ça fait partie de la romance, de ce qui s'est créé. Beaucoup de gens sont morts dans les embuscades. Billy the Kid, entre autres, il est mort, en fait, dans une embuscade. Jesse James s'est fait tuer alors qu'il s'était rangé des convois ou des voitures, si on peut dire. Après avoir eu une vie très, très mouvementée, il a fondé une famille, etc. Et puis, il y a un petit gars qui l'a reconnu, parce qu'il y avait déjà à l'époque des affiches où on disait mort ou vif, etc., qui l'a reconnu et qui l'a tué d'une balle dans le dos. Donc il a encaissé la prime. Et voilà. Et Billy the Kid, c'est la même chose. La chanson qu'on va écouter là, elle est très, très romancée. On dit qu'à 12 ans, déjà, il avait tué son premier homme et qu'il en a tué des centaines, etc., etc. On pense que Billy the Kid en a tué 21, ce qui est quand même déjà pas mal.
À son âge.
Ça fait en fait un tué par année d'âge. C'est quand même pas idiot parce qu'il est mort à 21 ans. Voilà, Billy the Kid.
Well, let me sing you a true song about Billy the Kid. Let me tell you all a story about the things that he did. Was way down in New Mexico a long time ago, where a man's first friend was his own 44. When Billy the Kid was a very young lad, out in old Silver City he went to the bad. Way out in the west with a gun in his hand, at the age of 12 years he had killed his first. Young Mexican maidens play guitars and sing by Billy the Kid, their boy bandit king. And how before his young life had reached his sad end, he'd a notch on his pistol there for 21 men. Billy the Kid said on the night that he died, he said, "Now boys, I am not satisfied. The 21 men that I have put bullets through, and Sheriff Pat Garrett's gonna make 22. The moon it was shining and the hour was late, when Billy the Kid met his terrible fate. Shot down by Pat Garrett, who once was his friend, his young outlaw's life had reached its end. Many a man with a face fine and fair, who starts out in life with a chance to be square, but like young Billy, he soon goes astray, and he loses his life in the very same.
Ah, Une petite question, il y avait des chansons aussi, est-ce qu'il y avait des chansons à la gloire des représentants de l'ordre, on me demande,
ou alors pas? Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que je n'ai pas tout mis parce qu'il y avait pas mal de chansons qu'on pouvait passer. Il y en a une qui s'appelle Rangers Command. Les Rangers, c'était justement les forces de l'ordre, hein, c'était ce qu'on appelait les shérifs
les
en shérifs, français,
marshals.
Les marshals. Et donc il y a notamment la plus connue qui s'appelle Rangers Command, qui est tout à fait à la gloire de ces gars qui risquaient leur vie pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ce bazar ambiant, quoi, hein. Donc oui, il y a effectivement beaucoup de chansons qui sont à la gloire des gens qui ont pacifié ou civilisé, on va dire, ces contrées un petit peu lointaines.
Oui. Oh, qu'est-ce qu'on en apprend des trucs ce soir. Allez, on continue cette émission Foot Folk, toujours avec Gégé, avec bien sûr le folk américain. Oui, mon petit Gégé.
Ah oui, pardon, je regardais la pendule, je me demandais si...
On a encore une petite minute, on va passer une petite page de pub.
Alors, petite minute, et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de La Ruée vers l'or, et puis on passera à la chanson après, éventuellement. Hein,
Bien sûr, La Ruée vers l'or.
Alors, La Ruée vers l'or, alors, il y en a eu plusieurs, mais la plus célèbre, c'est celle de Californie. Alors, encore une fois, quand on voit cette histoire de la conquête, faut pas la voir de manière séquentielle, mais la Ruée vers l'or aux États-Unis, c'était... Bon, grosso modo entre 1848 et 56, donc c'était avant la guerre civile, hein, donc il y a eu tous ces mouvements un peu qui fonctionnaient ensemble, quoi. On a découvert de l'or en Californie. Et il y a eu plus de 350 000 personnes qui se sont ruées pour essayer de trouver de l'or. D'abord, c'est venu de tous les États-Unis, puis après, c'est venu par bateau de l'Europe. À l'époque, le canal de Panama n'existait pas, donc on passait le Cap Horn, et puis on remontait sur la côte, on montait toute l'Amérique du Sud, voilà.